Je proclame la destruction. Tout le monde peut servir à détruire.
Bonsoir, vous êtes sur Fun Talks, vendredi 1er février, et pour cette deuxième édition de l'année, je reçois avec grand plaisir Regina Demina, Benoît Iquet et Nicolas Kerr. Un dernier titre assez sucré que j'ai découvert pendant les fêtes et que j'aurais voulu vous faire partager à ce moment-là. Donc on rattrape, une petite séance de rattrapage. Regina, on va écouter Sugar Daddy pour commencer. Sur Fun Talks avec Regina Demina. Je suis très contente de t'avoir sur le plateau, donc je t'ai redécouvert, on va dire, avec ce clip, parce que c'est pas seulement un titre à écouter, c'est aussi un clip un peu improbable avec...
Oui, c'était le but. Enfin, c'était le but de faire... Enfin, c'est une espèce de troll de Noël, en fait, ce titre. Ça correspond pas à ce que je fais trop en termes de musique à côté, Mais c'était l'objet en soi, c'était vraiment le projet de faire une vidéo.
Oui, tu avais déjà la vidéo en tête, et, ouais. Et ça c'est parce que tu parles de trolls de Noël, et enfin, des maquillages un peu ouais, impressionnants.
Je parle de trolls de Noël au sens de comme un troll internet, ouais, tu vois, c'est, mais... c'est une blague.
Mais il y a une sorte de double...
Ouais, il y a des démons.
De double sens, ouais, c'est un peu démoniaque. Mais il y a beaucoup de bras et beaucoup de jambes, donc tu ne sais pas à qui ils appartiennent. C'est cet univers visuel, est-ce qu'il synthétise un petit peu ce que tu as déjà traversé ou pas? Quand toi, tu es à l'image.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des contrepoints, en fait. Du coup, c'est de faire des contrepoints. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit... comme c'est une chanson très sucrée, et après, en vrai, le texte, il est un peu... il est sucré, mais il est glaçant, quoi. Du coup, le but, c'était de faire un espèce de glissement, comme ça, que ça ait l'air d'être une grosse papillote de Noël et qu'en fait ça soit un truc un peu presque horrifique 70 un peu 90 je sais pas, c'est un peu Mean's Girl Mean's Girl sous acide un Noël genre.
Mais je vois que dans les différentes interviews que tu as eues jusqu'ici, surtout pour la presse, comme on parlait de ID Trax etc, il y a un vocabulaire assez fort qui revient très à la mode, post-internet, etc. On en parlait pour .com, la performance que tu vas présenter justement à Fame Festival. Benoît Ekié, qui est un des programmateurs qui est présent ici, on va en parler derrière. Mais finalement, ces chansons sucrées, comme on dit, c'est aussi un petit peu les thèmes de certains classiques de jazz, hein.
Oui, après, justement, là, c'était vraiment un exercice, ce titre-là, parce qu'à la base, c'était censé être une sorte de synchro, peut-être pour les États-Unis. Et quand on m'a demandé ça, mais genre, moi, je trouvais ça drôle de détourner, en fait, cette espèce d'exercice presque de standard, tu vois, un peu de jazz ricain. Ouais, je trouvais ça marrant, quoi. Et après, c'était de... Je sais pas, je trouvais ça fun quoi, d'en prendre un peu le contre-pied quoi. Que ça a l'air d'être ça et que finalement ça soit pas tant ça quoi.
Et pour nous décrire le clip, peut-être que tu peux nous donner un aperçu de l'équipe et des talents qui t'entourent pour construire tout cet univers qui est proche aussi de la mode, un univers dans lequel tu baignes. Hein.
J'aurais pas envie de dire que c'est un univers proche de la mode parce que en fait mes références sont plutôt cinématographiques que mode. Et ce qui m'intéresse dans la mode, c'est quand ça va ailleurs que la mode, même si je trouve ça... En fait, j'aime que ça soit esthétisé, si tu veux. Mais là, par exemple, il n'y a pas une personne de la mode sur ce clip, quoi. Il n'y avait pas de personne de mode. Enfin, c'est pas du tout...
Mais l'esthétique est très raffinée et...
Oui, parce qu'en fait, j'aime que ce soit...
Très posé.
J'aime que ce soit léché, mais parce qu'en fait, moi, je trouve ça intéressant de faire justement des esthétiques très... En fait, d'avoir des esthétiques douces, girly, etc., ça permet de capter les gens pour faire passer la pilule et dire des trucs hardcore, un peu.
C'est un peu ça, en fait. Tu dirais qu'il y a beaucoup d'efforts dans le paquet cadeau.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et donc, pour revenir sur ton parcours, si l'image qui nous reste à la lecture des différentes... différentes informations que tu as déjà données en interview, tu aurais commencé finalement bien avant d'être passé par le Frénois, une école qu'on connaît pas forcément d'ailleurs, mais qui prête justement, toi tu as fait un parcours où tu as exploré tout ton travail de son, mais bien avant tu étais déjà dans le monde de la nuit. Je sais aussi que tu es danseuse.
À la base ma formation première c'est danseuse et comédienne. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans la mode parce que j'ai commencé à faire du mannequinat tôt, quoi. Je me suis fait scouter dans la rue. Et
c'est ça le casting sauvage, ouais, mystérieux, voilà. Dont on parle.
Ouais, ça faisait ça. Et voilà. Mais j'ai perdu le fil de la question.
J'ai dû voir une image de toi en train de danser à la barre.
Oui, j'ai fait de la pole dance. Allègrement pendant plusieurs années, c'est comme ça que j'ai payé mes cours de théâtre. Enfin, c'est comme ça que j'ai payé mes études.
Oui, parce que c'est un sacré apprentissage. C'est assez vertigineux comme travail.
Ouais, mais bon, après, si Courtney Love l'a fait, je peux bien le faire, non? Non, mais c'est un sacré apprentissage. Ouais, c'est un apprentissage. Enfin, maintenant, c'est récupéré comme un truc un peu genre trendy, je sais pas quoi. Moi, c'était genre, enfin, c'était.
Tu crois qu'il y a des séminaires en entreprise pour pole dance?
Moi, non. J'aime bien le pole dance.
Moi aussi, j'aime bien le pole dance.
Mais vraiment, c'est trippant.
Bah ouais, c'est grave trippant. Ça fait des. C'est
un peu comme. Esthétiquement.
Ah bah c'est esthétiquement trippant, puis ça fait des sensations un peu comme le skate.
C'est-à-dire. C'est-à-dire.
Ça glisse, ça va vite, c'est drôle.
Bah, j'ai joué dans un truc de Pigalle qui s'appelle le Love. Et en fait, il y avait deux filles, je chantais comme ça, il y avait deux filles qui faisaient pole dance, qui étaient habituées en fait.
Ah, ça devait être assez...
À ça, enfin, elles travaillaient là en fait. C'était vraiment sympa le patron. Et après, il m'a vu revenir une fois, il m'a dit, je te paye tout, mais ça, fais gaffe, c'est vraiment un piège à touristes ici.
Ah bah, fallait que tu fasses gaffe, pourquoi alors?
C'est, sinon, on va
c'était
vider
pas
mon
la
portefeuille.
Scène de ta vie. Ah oui,
non,
d'accord.
Voilà, ça, il a dit... Ici, on sait tous les trucs pour te faire dépenser 300 euros. Quoi.
Mm-hmm. Et le pole dance, c'est ça? Donc, tu pour répondre à Nicolas, Regina?
Bah, j'ai pas travaillé au Love à Pigalle. mais bah ouais, à la base, le pole dance, ça vient du striptease, quoi. Après, moi, j'ai travaillé dans des revues, mais ouais, j'ai payé mes études comme ça. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Je pense que, sauf.
Ouais, c'est déjà.
Sauf si c'est pour émousser les auditeurs, mais en vrai, je pense que je sais pas, c'est clair, quoi.
Non, mais je me dis que c'est déjà une très belle maîtrise de la scène.
Bah ouais, moi ça a été la meilleure école de théâtre, en vrai. Même si ça m'a servi à payer mes cours de théâtre, mais en vrai...
Donc ouais. Après, tu as tenté de faire des films en équipe, tu disais, et tu t'es aperçu que...
Bah j'ai fait des films même qui ont circulé en festival, en des festivals cool.
Est-ce qu'on peut les retrouver aujourd'hui?
Je mets très peu de choses sur internet. Parce que c'était plutôt des vidéos d'art, du coup, le principe, c'est que si ça te balade trop sur Internet, tu peux plus les vendre en galerie, du coup...
Qu'est-ce que tu entends par vidéo d'art, alors?
Bah, c'était des films qui ont un peu circulé en festival, mais c'était pas des films... c'était des pièces comme, je sais pas, le principe d'une sculpture ou d'une peinture que tu mets en galerie, et c'est comme ça que tu vas la vendre, quoi, en fait. Du coup, là, c'était des pièces qui étaient faites pour être montrées, tu vois, aux gens quand ils allaient
et
la voir.
Et ce travail de la vidéo, il est...
Après,
à quoi il peut être apparenté de ce que tu fais aujourd'hui?
Bah, maintenant, j'ai arrêté de faire ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait beaucoup.
Narratif ou c'était plutôt
C'était narratif, expérimental. C'était des fictions expérimentales.
Où tu utilisais déjà ta voix?
Ouais, j'utilisais déjà de la musique et on a commencé à me reprocher, enfin pas à me reprocher, mais c'était Bertrand Bonello d'ailleurs qui me disait qu'il y avait trop de musique dans mes films et puis du coup et d'autres personnes qui m'ont dit, mais ils me le disaient avec bienveillance. Puis après je me suis dit que si on avait trop, c'était peut-être ça qu'il fallait faire.
Bien joué.
Mais non, maintenant en gros la vidéo en fait ça me sert à, je m'en sers beaucoup comme élément scénographique quand je fais des pièces totales. Je m'en sers pour je réalise mes clips de mon projet ou de side project dans lequel je peux être.
Sugar Daddy par exemple.
Ouais. Et le clip d'avant qui s'appelait Pyromane, là les deux qui...
Que tu mets en scène complètement ou tu crées les accessoires que tu...
En fait, j'ai fait le scénario, généralement je fais la direction photographique, parfois, enfin souvent, je fais le découpage aussi. Je fais la DA quoi, du projet, je choisis une partie de l'équipe généralement, enfin le chef op.
En parlant d'équipe justement, est-ce que c'est des personnes que tu as croisées dans différentes aventures de ces différentes scènes que tu as déjà connues?
Autant que possible, ouais, j'essaie de jouer avec mes amis, enfin surtout pour les comédiens en fait. J'aime mettre en scène mes amis et qui sont des muses, quoi, qui sont mes muses et qui souvent aussi eux-mêmes me mettent en scène d'ailleurs. Pour ce qui est des chefs-op ou ouais, ça peut arriver que ce soit effectivement des gens parfois que j'ai croisés pour me contredire parfois sur des jobs de mode ou sur d'autres projets de films. J'aime bien retravailler avec des personnes avec qui j'aimais bosser, quoi. Quand c'est sur leur projet, j'aime bien après les ramener sur les miens.
Tu parles de white trash au niveau de tes sources d'inspiration.
Oui.
Et de quel univers, de quel jeune artiste tu te sens proche? Est-ce qu'il y a une scène dont tu te sens plus familière quand tu parles de tes amis?
Je sais pas si je parle du white. Je sais pas si mes amis sont forcément tous white trash. Il y en a, même si je pense que c'est une esthétique qui parle à tout le monde, c'est pas un terme très genre politiquement correct, mais moi que j'aime parce que je trouve qu'il dit sans hypocrisie ce qu'il dit, quoi.
C'est-à-dire ?
Bah normalement le white trash c'est un peu un truc de, je sais pas, de classe populaire blanche, très, enfin des basses classes blanches, quoi. C'est plutôt un terme américain, mais bon, je trouve qu'en vrai, si tu vas dans les banlieues françaises, on y est bien, quoi. On est bien dedans aussi. Ou en Russie, genre d'où je viens, bah, c'est pareil, quoi. Genre, c'est, je trouve que ça correspond bien au truc. Mais je pense que c'est des esthétiques qui parlent après à des gens que j'ai autour de moi aussi, quoi. Bah, ces codes, maintenant, qui sont très, très récupérés par la mode, enfin, ces esthétiques de banlieue, enfin, ce truc un peu de truc un peu. Bah, je sais pas comment dire, de pauvreté photogénique en gros.
D'un kitsch populaire.
Ou c'est même pas forcément kitsch, c'est pas kitsch en fait, forcément. C'est effectivement, c'est plus d'un certain mauvais goût ou juste, bah, juste, enfin, ouais, vraiment, c'est bah, des basses classes, quoi. Donc en fait, c'est pas, c'est justement, là, c'est un truc hyper récupéré par la mode, par plein de photographes, tout ce truc de. Bah, je sais pas, cette mouvance genre normcore, y a un peu de ça, quoi. Mais
oui, c'est, est-ce que ce serait, c'est très années 90 aussi,
ça, ouais, c'est ça,
de revival 90.
Bah, c'est le truc d'enfance, quoi.
T'arrives à apercevoir ce que les gens entendent par post internet?
Bah ouais, c'est je pense que c'est juste la génération qui a grandi à ça, quoi. Enfin, notre génération qui a
le temps de le digérer.
Ouais, qui a le temps de le digérer et maintenant de se l'approprier comme une esthétique avec des codes, enfin plein de codes esthétiques, hein, je pense.
Je te propose qu'on écoute Stockholm, mm-hmm. et qui sera un peu la porte d'entrée pour parler de tes collaborations musicales actuelles et des quelques performances et scènes à venir. Mm-hmm.
Tu prends sa photo, tu l'emballes dans du papier noir. Et tu la couches face contre terre dans le congélateur. À Stockholm, je me demande si tu continues à Stockholm, à m'appeler, à m'écrire, à me suivre à Stockholm, même si je dis que je ne veux plus à Stockholm. Syndrome de Stockholm, à vite ta vue, je voudrais tellement oublier le mal. Je voudrais tant que tout soit égal. Je voudrais aussi un million de dollars. Mais je t'ai tué. Tu es un sale crevard. Je reste là à me repasser nos vidéos. Je reste là à me repasser nos vidéos. Je me touche dessus et je prends l'eau. Blanche Ophélie toute seule, toute sale. T'envoie une carte postale, une paille brûlée, sale rodéo. Quel tableau de maître Ophélie le traître. C'est sombre, c'est beau. C'est sombre, c'est beau. À Stockholm, je me demande si tu continues à Stockholm, à m'appeler, à m'écrire, à me suivre à Stockholm. Même si je dis que je ne veux plus à Stockholm. Syndrome de Stockholm, à vie t'as vu. Je voudrais tellement oublier le mal. Je voudrais tant que tout me soit égal. Je voudrais aussi un million de dollars. Mais je t'ai tué. Tu es un sale crevard. Je reste là à me repasser nos vidéos. Je me touche dessus et je prends l'eau. Blanche Ophélie toute seule, toute sale, t'envoie une carte postale, une paille roulée, sale rodéo, quel tableau de maître Ophélie le traite. C'est sombre, c'est beau.
C'est sombre, c'est beau.
C'est sombre, c'est beau. À Stockholm. À Stockholm. À Stockholm. À Stockholm. Si tu continues à Stockholm, à m'appeler, à m'écrire, à me suivre à Stockholm, même si je dis que je ne veux plus à Stockholm, syndrome de Stockholm, à vie ta vie.
De retour sur Funtug avec Regina Demina. Je te donne la parole pour nous mettre dans l'ambiance d'une de tes prochaines performances.
Du coup, j'ai parlé de Dotcom, que je vais jouer le 15 février dans le cadre du Fame Festival à la Gaîté Lyrique. À la base, c'était... en gros, c'est une pièce sonore qui va avec un film qui sera projeté tout autour. L'histoire, en gros, c'est une... C'est basé sur la théorie du basilic de Rocco, qui est à la base une théorie un peu transhumaniste qui a fait shifter plein de mecs qui bossaient là-dessus et qui était une sorte de blague, en fait, au final, qui a été lancée sur un forum mais qui était hyper suivie par des mecs qui travaillaient là-dedans.
C'est quoi comme théorie ?
En fait, c'est une intelligence artificielle qui te torture pas toi dans IRL, quoi. Tes traces sur internet, tes avatars, du coup moi je l'ai transposé à un autre truc où c'est une sorte d'intelligence artificielle qui est alien et qui torture une Instagirl et un peu toutes ces traces, espèce d'égérie internet quoi, et du coup à la fois qui la fascine et en même temps qui la phagocyte. Et le film, c'est des sortes de on sait pas trop si c'est des sortes de matrices ou des bouches ou des fleurs en 3D, et après on découvre une sorte de fleurs carnivores. Et moi, je raconte, en fait, je fais plusieurs voix, je fais les voix à la fois de l'intelligence artificielle et de la fille, des avatars de la fille, quoi. Voilà.
Et ce serait une performance assez longue ?
Ça, là, c'est une forme très courte, c'est une performance qui fait 17 minutes.
D'accord.
Ça, c'est vraiment comme une sorte... Je sais pas comment ça, c'est à peu près ce que ça apparentait à une sorte de ciné-concert, en un sens.
D'accord. Et là, on vient d'écouter Stockholm, et avec une première collaboration, enfin, qui n'est pas la première, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnes que tu as rencontrées, de Crush for Crash, dont on a beaucoup parlé ?
Là, le titre Stockholm, c'est un featuring avec une fille qui s'appelle Sentimental Rave. Qui vient comme son nom l'indique d'une scène techno que j'aime beaucoup. Crush for Crash, initialement, c'est une pièce que j'avais montée en Inde, en fait, qui était à la base une pièce sonore que j'avais faite seule, où je faisais un solo sur une voiture brûlée, et après du coup c'était à Goa, donc les rushs de, enfin, la destruction de la voiture était presque le truc le plus funky et photogénique, quoi. Du coup, c'est ce que je reprojette maintenant pendant la pièce, que je fais en binôme avec Manuel Malin, donc qui a pris maintenant, on fait la sélection des morceaux ensemble, lui m'accompagne musicalement et il me propose plein de sons, quoi, et moi je fais le texte de cette pièce, en fait, qui est peut-être le dire au début, oui. Qui est en gros, ça étire un crash, donc juste l'instant du crash, en fait, qui est très fulgurant sur 50 minutes, et c'est la voix, en fait, de la fille qui était dans la voiture qui meurt et qui parle à son amant, le conducteur, en fait, qui survit.
Et j'ai vu Manu Malin, le driver.
Ça, c'est son autre projet, en fait.
Étonnant.
Ouais, c'est étonnant. Et voilà, en gros. Mais en gros, ça a l'air tout. Enfin, le texte est assez, le ton du texte est assez doux, et bon, la musique est assez sombre. Mais c'est presque du design sonore. C'est pas forcément. Il fait pas un mix de hardcore. C'est un travail un peu plus théâtral, en fait. C'est une pièce de théâtre, quoi. Et la scène, c'est des débris de voiture dans une sorte de forêt, de forêts et de fleurs, quoi.
On passera aussi Pyromane tout à l'heure, et cette ambiance est toujours, il y a des mots récurrents, le crash, les relations un peu sadiques avec une machine, pour Dotcom, ou je pensais, oui, à des choses assez noires comme
les machines sont le prolongement de notre cerveau, donc c'est du masochisme. Si on s'acharne contre une machine, on s'acharne sur soi, en fait.
Je sais pas si ma tu psychanalyse en public, c'est gênant.
Mais en vrai, il y a un peu de ça. Et enfin, bah, moi, je fais des pièces qui questionnent la violence. Donc,
De toute façon, par exemple, une intelligence artificielle, celle de ton téléphone ou celle que tu traces et tout, elle sait tes comportements. Donc, quelque part, c'est un miroir. C'est, de toute façon, elle a une injonction vers toi. Et bien, quelque part, c'est qu'elle elle te parle vraiment de toi-même.
Ah, bah oui, oui. C'est des choses
donc,
transposées.
Donc, vouloir les détruire. Ou alors c'est un outil technologique neutre, ou alors c'est quelque chose qui apprend de toi. C'est
des trucs. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas des. Ça m'intéresse pas de faire des outils technologiques neutres. Moi je préfère humaniser les objets, quoi. Enfin, ce qui m'intéresse.
C'est l'animisme. L'animisme alors.
Ouais, c'est un peu de l'animisme. C'est
un moi peu je suis animiste.
C'est un peu de l'anthropomorphisme de machines.
Et tu crois que cette période de sujets, enfin de points de départ un peu sombres, qui peuvent devenir plutôt acides, mais. Tu sens que c'est une période particulière que tu n'avais pas avant ou c'est un sujet que tu déploies au fur et à mesure qui est le même ?
Bah non, non, c'est, c'est un sujet... Enfin, je pense que je questionnerai, je creuserai le sujet longtemps. Après, justement, ce que je trouve intéressant, c'est... Comme c'est des sujets qui sont sombres, bah, c'est de voir comment je peux... le faire de manière un peu ouatée pour que ce soit un peu, je sais pas, subtil dramaturgiquement, quoi. Mais justement, enfin, c'est un peu ma problématique, c'est comment, comment je peux raconter ces choses-là, comment je peux travailler autour du romantisme morbide ou de la violence, ou des choses comme ça, sans que ce soit manichéen, quoi.
Mais c'est bien que tu interviennes, Nicolas, puisque j'ai noté une phrase que je suis pas la seule à avoir notée, mais je crois que c'est dans Bruit Blond, White Noise. Un petit documentaire qui est, enfin le film qui a été fait, qui tu disais que.
Par Olivier Forest, il m'a suivi pendant un an en fait.
Olivier Forest, ouais. Et. Il y a longtemps, hein, il y a 14 ans.
Ouais. Ouais, il y a longtemps. Non, beaucoup.
Non,
plus.
Il y a. Si, il y a 14 ans.
Non, 14 ans, ouais.
Ah ben non, il a commencé en 90, c'est ça ? Avant 2000
Non, mais là non, où on non, te non, voit non, c'est 14 jeune. Ans, il y a 14 ans.
D'accord.
Ouais, c'était juste okay. Avant que je rentre dans Polynox en fait. Parce que ça s'arrête quand je rentre dans Polynox.
Ah oui, d'accord. Ouais. Mais on voit des images de toi très jeune aussi.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on est amis depuis très longtemps.
Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Mais donc, tu disais que le rock, c'est un monde dans lequel on est déjà mort. Ça me faisait penser un petit peu quand même à certains points communs dans vos univers, peut-être.
Bah, le rock, maintenant, ça n'a rien de subversif, ni de... Enfin, bon, c'est les mecs, ils y vont dans le caisse, hein. Avec leur jeans slim, c'est des... ils vendent leur truc, quoi. Bon, de leur tambouille matrock mélangé avec une petite gueule, et pourquoi pas, hein, ça marche pour eux, tant mieux. Moi, je suis pour tout le monde, je suis pour je sais pas quoi, le zouk électrique, je suis pour Laurie, moi je m'en fiche complètement, les gens qui font leur truc et qui s'amusent et qui gagnent de l'argent.
Bon, bah, on va avoir l'occasion de parler de tous ces styles en parlant de fame tout de suite. Alors, pour finir avec toi, Regina, je voudrais que tu m'aides à annoncer les prochaines dates. Donc, celle à venir, bien sûr, la plus proche, ben, en fait, c'est le 7 février
oui.
À Brest, donc avec Manuel Malin pour Astropolis Festival, mais festival d'hiver. Donc, Crush for Crash qui sera rejoué. Ensuite, on a 15 février, donc Fame Festival. On va en parler ensemble, Benoît, où tu as ta performance qui aura lieu donc à la Gaîté Lyrique. C'est un festival qui est lié aux films et musicaux. Pour raccourcir, quel est l'intitulé exact, Benoît ? Quelle est l'idée, le concept du festival
festival s'appelle Fame, film, musique, expérience. Donc on a à cœur de programmer des films, car c'est un festival de cinéma, mais qui n'est jamais déconnecté de la musique. Donc on s'intéresse à des formes visuelles qui sont le plus large possible, et on raccorde le plus possible des engouements sur des groupes ou sur des artistes qu'on peut avoir avec Olivier Forest, avec qui je programme ce festival. Donc c'est un panorama annuel... très sensible, par définition, quand on monte un festival, on met en jeu aussi sa sensibilité personnelle, tout en étant super attaché à programmer des films en exclusivité française, mondiale parfois.
Donc Olivier Forest, le même dont on parlait pour
le même. The One and Only Olivier, avec qui je travaille sur ce festival depuis 5 ans maintenant, parce que ça fait 5 ans que ce festival existe, c'est l'édition anniversaire. Et voilà, Fame, c'est, on a l'habitude de dire que ça se définit par les films annuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de case prédéfinie. On est un festival de cinéma autour de la musique, mais on s'efforce de programmer surtout des films forts On dit en général qu'on préfère programmer un bon film sur un mauvais musicien que, qu'un mauvais film sur un musicien qui aurait bon goût, voilà, qui me semblerait être dans l'air du temps. Il y a toute une histoire comme ça, toute une généalogie de films assez fort, intense, sur des musiciens complètement inconnus, dont on peut parler aussi.
On va en parler d'ici peu. Donc pour finir sur l'annonce du 15 février particulièrement, c'est une date du festival où d'ailleurs on retrouve Jérôme Clément pour son film Quand tout le monde dort, qui est déjà été diffusé dans le cadre du Red Bull Festival il n'y a pas longtemps. C'est un film qui parle des soirées qu'est la scène free, ouais, je sais. Et puis donc le même soir aussi un film sur Daniel Darc qui moi fait partie de ceux que j'ai le plus envie de voir. Et puis Regina, le soir de ta performance.
Ouais, je suis trop saucée.
Daniel Darc, Pieces of My Life de Marc Dufaux. Donc ça c'est le 15 février, mais bon, le festival dure sur plein d'autres soirées. En tout cas, nous, on sera là-bas le 15, hein. On espère. Ensuite, 21 février, Regina, donc tu seras aussi au Festival des Bains. Et le 6 avril, au Trabendo.
Oui, pour les femmes sans mêle.
Pour les femmes sans mêle, exactement. Et je voulais juste un dernier petit témoignage. Le public le plus nombreux, le plus impressionnant que tu as eu pour l'instant.
C'était... Je pense... Enfin, c'est deux événements différents, mais je pense que au Palais de Tokyo, quand j'avais rejoué à Alma avec Ariel Borenstein et Crush for Crush avec Nul Malin, c'est deux pièces de la même trilogie en fait sur les voitures. Il y avait beaucoup de monde et pour une pièce de théâtre, je pense que c'est la pièce où j'ai eu le plus de monde. Et puis le moment où j'ai eu le plus de monde en jouant, je pense que c'était pour la Technoparade.
Ouais, oui, une petite photo de toi sur Instagram d'ailleurs. Je sais pas si tu es ton propre personnage pris par la machine web. mais la Technoparade, oui, c'était.
Ah, c'était épique. Hein. J'avais jamais. Je crois que c'était la première fois que je mixais sur des platines, des vraies platines, devant des gens.
C'était l'année dernière ou
C'était cette année.
Cette année.
Ouais, il pleuvait à verse, ils ont changé 1000 fois. Une des platines. J'ai joué sur une platine, c'était trash. Mais c'était drôle en même temps, c'était un bon crash test. C'était bien vertigineux, mais c'était intense quoi.
Je propose qu'on écoute Pyromane pour te dire au revoir, mais à bientôt. Merci d'être passé.
Merci à vous.
C'était un avant-goût, c'était un apéritif, un petit bonbon apéritif.
Pyromane.
retour sur Funtox pour cette deuxième partie plein de surprises. Mais Régina, avant de nous quitter, tu voulais nous donner quelques détails sur cette remix qu'on vient de passer.
Ah oui, c'est un remix de mon morceau Pyromane par un groupe qui s'appelle Fiftera, qui est mon groupe de doomcore préféré. Du coup, j'étais trop contente. Voilà, c'est juste ça.
Et tu disais que c'était une nouveauté pour le label.
Bah, c'est pas trop. Enfin, globalement, ce que je fais n'est pas forcément dans la ligne habituelle du label qui est Quaidan Records. Mais du coup, c'est assez chouette parce que je fais quelque chose que le label n'a pas trop l'habitude de produire. C'est-à-dire que normalement, tous les titres sont produits par le producteur du label qui s'appelle Marc Collin. Et moi, je fais beaucoup de collaborations, justement, mais parce que j'aime travailler avec des producteurs différents, aller chercher des sonorités différentes.
Ouais, c'est assez rare ce principe de label où il y a beaucoup de chanteuses femmes, d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est lui qui compose en grande partie, quoi.
Ouais, voilà. Et du coup, il garde, enfin, on retravaille parfois ensemble sur certaines structures d'autres morceaux, mais là, enfin, le prochain titre, c'est un morceau qui a été produit par un musicien qui s'appelle Sam Tiba, qui est un des anciens de Club Cheval. Celui d'après, c'est un featuring avec Lester. Je fais des morceaux aussi avec un prod qui s'appelle Colin Junko.
Oui, étonnant. Enfin, ça change l'univers de Manuel Malin, mais c'est une...
Mais Manuel Malin, il n'a pas produit mes titres. Manuel Malin, on travaille, il m'accompagne sur scène.
Oui, c'est plutôt une collaboration. Ouais.
Sur le spectacle. Mais
et John Cool, là, il a fait plutôt la prod sur laquelle tu vas chanter.
Ouais.
D'accord. Voilà. Et, ce label, t'as approché comment? Puisque c'est plutôt toi qui vas chercher en général les collaborations.
En fait, on avait fait une cover de Tandem, de Vanessa Paradis.
Ah oui, qu'on écoutera aussi.
Pour un show que je devais faire au Manco, cabaret, et à la Pôle. Et du coup, parce que j'adore Vanessa Paradis, mais j'aimais pas...
C'est quand même les paroles de Serge Gainsbourg, c'est pas mal.
Ouais, non, mes paroles sont trop belles, mais j'aimais pas les guitares, et je voulais des accords mineurs.
Ouais, ah oui, c'est, je reconnais... Ouais, en effet, je me demandais quelle était la modif, mais c'est marrant, parce que je me suis demandé laquelle je préférais, du coup.
Ah, ça me flatte.
Moi, je passe l'original, en fait.
Tu donc
j'aime pas l'original, j'aime pas la musique en fait.
Ah oui.
Donc j'ai hâte d'entendre ça en mineur, je suis sûr que c'est mieux.
Ah fait. Oui, il faut t'écouter, elle est vraiment pas mal.
Oui, moi je trouve que c'est une chanson triste.
Bon, on la passera tout à l'heure si on a le temps alors. Et en tout cas, à bientôt, tu peux rester parmi nous et on va passer au fameux festival Fame. Benoît, donc de retour avec toi pour nous parler de ce festival qui va avoir lieu à la Gaîté Lyrique, 5e édition. De comprendre un petit peu le choix que vous avez fait et toi les attentes que tu as sur certains films en particulier. Donc c'est des films qui sont internationaux, comment ils viennent jusqu'à vous?
Alors il y a deux méthodes quand on programme un festival, il y a aller chercher des films, ça consiste à passer pas mal de temps dans des festivals en se déplaçant, en allant bien sûr sur des sites de festivals quand on ne peut pas aller partout, on n'a pas le don d'ubiquité. Donc chaque année voilà, on rassemble comme ça des films avec Olivier, j'ai pas le chiffre exact, ça, c'est en centaines. Donc on visionne beaucoup de films. Et par ailleurs, on fait un appel à films chaque année.
Donc ça filtre quand même une certaine déjà qualité de production.
Il n'y a pas de grille préétablie, encore une fois. C'est, on voit les films pour ce qu'ils sont. Voilà, on voit un film. Après, il y a la manière dont il est fait, qui l'a fait, sa provenance. Donc on a des films très très variés sous les yeux, littéralement. On a des films d'artistes, on a des films autoproduits, comme tu viens de le dire. Des films très do it yourself. Et quand on parle de musique, il y a beaucoup de films de fans qui sont autoproduits, qui émanent du crowdfunding. Donc c'est peut-être l'une des particularités de ce festival avec Fame, c'est qu'on voit encore une fois beaucoup de films sur la musique par définition, et dont encore une fois beaucoup ont une provenance comme ça de fans. Il y a beaucoup de communautés de fans qui s'intéressent aussi au médium film je t'en prie.
Non, mais je me disais, parce que toi-même, d'où vient l'idée tu peux nous faire un bref rewind de ton parcours, parce que toi aussi tu interviens en tant que fan pour programmer ce festival, ou de quelle autre zone de création tu viens pour avoir monté ce festival avec Olivier Forest?
Fan, je ne sais pas si c'est mon travail, je ne pense pas.
Fame.
J'aime bien ce festival, effectivement. L'idée de départ, l'envie de départ avec Olivier, c'était de de recréer un festival assez idéal à nos yeux, en tout cas, pour être fan et de musique et de cinéma. On avait envie de rassembler comme ça des énergies qui nous semblaient assez communes. On va beaucoup à des concerts, on va beaucoup dans des festivals de cinéma, et on était toujours très très surpris par la pauvre qualité des films autour de la musique qu'on pouvait voir dans des festivals de cinéma un peu traditionnels. Et par exemple, il y a un cliché qui, c'est un peu moins vrai maintenant, mais les fêtes de festivals de cinéma étaient souvent constituées d'une chenille sur de la musique un peu nulle. Et vraiment, enfin, à Cannes, d'autres festivals, c'était presque un marqueur pour nous.
Aucune trace documentaire de ça, je veux bien pour le
prochain. Chose. Non, mais c'est un peu pour l'anecdote, mais c'est un peu pour indiquer aussi un état d'esprit. Nous, avec Fame, Olivier avant faisait un festival qui s'appelait Film et la musique, qui s'est déroulé pendant 5 ans au Point Éphémère. Pour te répondre sur la généalogie, moi j'ai toujours programmé des films autour de la musique, notamment dans des festivals de court-métrage.
Toi, t'es plutôt du côté programmateur, curateur entre guillemets de pièces d'art. Est-ce que tu viens aussi de la fabrication? Est-ce que
non, pas du tout. Non. Moi, mon travail, c'est d'avoir un regard sur une production, sur des films. Encore une fois, quelle que soit leur provenance, des films d'artistes, des films. Qui viennent plus de l'industrie ou qui sont produits, programmateur, curateur, commissaire, enfin voilà, c'est un point de vue. Et j'ai aussi beaucoup écrit sur ces formes-là.
C'est toi qui écris le descriptif des films d'ailleurs ?
On le fait à deux, on le fait avec Olivier, ouais.
À ce propos, du coup, c'est intéressant parce que je te voyais noter, là on parlait en off, Nicolas a proposé de créer un nouveau style musical qui était le Witchcore. Et alors toi,
non,
tu
ça
notes.
Existe.
Ça existe. Mais maintenant qu'on a décidé, de toute façon, ça existe. Hein. Parce que dès que c'est un peu hybride, dès que ça déborde du hardcore...
Le black zouk électrique. C'est du zouk électrique avec du métal. Et déjà, le zouk électrique, c'est du
zouk love. À pas confondre avec l'afro...
Le zouk love, c'est assez genre... Ma chérie, tu as la peau comme une papaye.
Donc ça existe
dès maintenant. Ça, c'est du zouk love. Et puis il y a les mecs, il y a le zouk électrique, c'est les mecs qui ont trop pris de crack. Ils fument du crack comme des malades. Ils sont en Marseille, ils tapent leurs meufs, ils vont tout le temps en prison, ils boivent du rhum. Et les mecs, ils sont tellement speed qu'ils sont à 200 BPM. Ma chérie, moi,
du coup, ça devient du métal.
Ça s'appelle du zouk électrique, quoi. Les mecs, ils sont quand même vrillés, ils font les lovers, quoi. Donc il faut faire du black zouk love.
Ok, mais tu vas noter Benoît peut-être, parce que j'ai l'impression que en fait moi ce que je trouve passionnant pour décrire, donc il va y avoir des films qui parlent de plein de styles de musique, mais bon quand on fait un petit peu l'histoire et qu'on connaît aussi l'émergence de certains mouvements, voire parfois l'absence de visibilité de certains groupes ou de certains mouvements qui sont géniaux, enfin la manière dont les artistes ou les musiciens sont médiatisés, c'est un festival qui va aborder autant le rapport de la musique et de la danse, des portraits d'artistes comme Daniel Darc, on en a parlé, des portraits de fondateurs de labels, de musiciens qui ont fait carrière et qui ont disparu, d'autres qui ont choisi de quitter la scène, mais que ce soit des années 70 aux années 80, un film sur le mouvement hip-hop. Comment tu nous guiderais un peu dans cette programmation? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu... est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à rendre un peu abordable le monde de la musique à des gens qui n'en sont pas?
Et c'est Alan McGee ou pas? Ou c'est Alan McGee, le patron de label, ou c'est qui?
J'ai pas compris.
Ah non, le patron.
Non, c'est Alan McGee.
Pourquoi tu penses à lui en fait?
Parce qu'il y a eu un film, un documentaire fait sur lui en fait.
Oui, il y a 4-5 ans, oui. Ouais.
C'est pas lui en fait.
C'était bien ce film?
Je sais pas, j'ai pas vu.
J'ai pas vu.
Non, c'est pour ça.
C'était lequel? Trois Run Records, je pensais à ça.
Ah oui, c'est autre chose, c'est Rocksteady. Ouais.
C'est Rocksteady, tu dirais? C'est Reggae? Reggae Ska?
Jeanne, c'est Rocksteady, oui, mais c'est l'ancêtre du Reggae en fait.
Rocksteady, tu vois. Source de débat. Alors, comment tu nous guiderais, Benoît, dans toutes ces...
Alors, il y a plusieurs manières de te répondre. La première, c'est d'indiquer aux gens qui nous écoutent qu'on n'est pas un festival qui a pour envie préalable de faire une recension de tous les courants musicaux qui existent, très contemporains. Ça, on s'en fout. C'est pas notre envie. L'envie, c'est vraiment de programmer une sélection très condensée, très ramassée. d'une trentaine de films forts, qui sont des vrais gestes artistiques et cinématographiques, tout court. Voilà. Et après, ça crée un parcours, effectivement, au sein peut-être de courants musicaux, soit anciens, soit actuels. Mais on est vraiment animé par cette envie de programmer des films qui nous semblent être comme un baromètre de la société, quoi. Qu'au travers de la sélection de films qu'on fait chaque année, on a, avec cette hypothèse que quelqu'un voit tous les films, ce qui est assez impossible vu la grille programme, qui sortent de ces projections nourries par ce qu'ils viennent voir, en essayant de comprendre un peu le monde dans lequel on vit, et de comprendre aussi peut-être à travers des films. Alors là cette année, il y a beaucoup de films qui sont des portraits, parfois des enquêtes à travers la musique, à travers le cinéma, à travers le temps, et d'essayer de comprendre aussi ce que peut être la vie d'un musicien, quel est son parcours, quelles sont ses idées, ses envies, ses angoisses éventuelles. Et effectivement, le film sur Daniel Darc est rempli de ça. C'est, le film et cet artiste étaient remplis de doutes et d'angoisses que les archives qui ont été remontées par Thierry Villeneuve et Marc Dufaux montrent très bien. C'est un film aussi un peu dur, hein, faut pas se le cacher.
Mais ce qui est étonnant et paradoxal dans cette programmation, c'est que, je ne parle pas de manière neutre, hein, mais pour le plaisir d'un musicien, aller voir des films qui parlent de la musique, c'est un peu déroutant parce que, en l'occurrence, le film sur Daniel Darc, moi j'ai eu l'habitude d'écouter tout ce qu'on peut trouver comme source de ses interviews. Mais là, écouter une heure et demie de sa voix ou des films très musicaux qui ont vraiment des bandes-son magnifiques et d'aller les voir en salle, la musique c'est quelque chose qui peut plus souvent accompagner quand on. Autrement, quoi, au casque, en l'occurrence pour moi, ou sur scène. Et là, c'est des formats qui sont assez ambivalents. En effet, il y en a qui sont vraiment des parcours. Où on est complètement immergé dans le son et c'est des films qui peuvent s'écouter quasiment, quoi. Voilà, très bien. Aucun rebondissement.
Parfois, il y a des chanteurs, c'est très étonnant. C'est pareil que Nick Cave, c'est pareil. En civil, il a une voix de Donald Duck. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je chante When I first came to town. Et si je parle.
Oui, mais attends, t'as des voix différentes en fonction des moments aussi. Hein.
Oui, mais même, ça dépend.
Là, aujourd'hui, t'as pas du tout une voix de. Comment on appelle ça En fait, ta voix, parfois. Je vois très bien ce que tu veux décrire, Nicolas, mais ça me fait penser au premier. Avant la country. Tu vois, ces chanteurs.
Avant le déluge.
Ouais, tu crois que la country c'est le déluge ?
Non.
Non, mais je sais pas si vous avez en tête.
En tout cas, ils aimaient bien la vivre.
C'est surtout les enregistrements de l'époque aussi qui rendent les voix encore plus.
Les field recordings.
Encore plus.
C'est trop bien d'écouter ce que tu dis. Moi, c'est un peu par exemple mon travail, c'est de quand je parle de pièces sonores, c'est de faire presque du théâtre ou des films qui s'écoutent. Enfin, moi, c'était un peu ma problématique. Moi, je trouve ça bien d'avoir des films. De pouvoir mettre un film sans pouvoir le regarder, juste pour entendre les personnages qui parlent, entendre la musique. Je sais pas forcément, je pense pas que la musique, ça accompagne. Je pense qu'en soi, moi j'aime ce festival.
C'est
parce
un deuxième monde.
Je trouve que ça se tient tout seul en fait. Moi je trouve que la musique, ça.
Ben ouais, mon rêve c'était un clip, mais ça vient d'être fait. Enfin, ça a été fait. C'était un clip où il y avait juste un écran noir.
Ouais, mais
avec la musique.
Bon, pour ça, j'adore le visuel, mais je trouve que parfois c'est tellement fort que ça se suffit presque, quoi.
Je précise quand même qu'on montre pas de clip, pas de concert filmé, on reste un vrai festival de cinéma tout court.
Ah, mais justement, c'est ça qui est intéressant.
Si on veut fermer les yeux, c'est possible.
C'est
mais
toi qui se défend, du coup.
Non, pas du tout.
Mais c'est plus sociologique. Si
je précise que c'est un assemblage de films plutôt documentaires, ou de films expérimentaux, ou de films sur des sujets comme des labels ou des communautés. On est dans l'expérience sensible aussi,
mais c'est
préférable d'avoir les yeux ouverts, quand même.
Oui, c'est ça, on est un peu dans l'ambiguïté, parce que du côté d'un cinéaste,
je crois pas qu'il y a aucune ambiguïté en fait. Pourquoi
Parce qu'on peut le regarder d'un point de vue d'un cinéaste et le regarder d'un point de vue d'un musicien. Et c'est vrai, quand on conjugue les deux, il y a plusieurs manières d'appréhender ces films. Enfin, je dis, j'en ai d'écouter aussi en fond la voix de Daniel Darc plutôt que de le regarder. Voilà, c'était ça qui m'a fait penser aussi au fait que le film avec la compagnie La Horde, enfin, la compagnie ou le collectif La Horde par exemple, c'est quelque chose qui se regarde clairement puisqu'il danse vraiment sur la musique. Et il y a plein d'interviews comme ça, mais surtout pour des personnes tu vois, de la radio qui font du son. On est habitué à vraiment entendre les voix et tout ce qui peut passer aussi dans la voix et dans la qualité des enregistrements, des archives. Voilà, c'était pour mettre ça en valeur. Mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant pour un cinéaste que de filmer la musique aussi. C'est une autre histoire.
En fait, il y a un film, par exemple, Scorsese, il disait qu'il avait pris Mean Streets et il a dit que quand il était gamin, il écoutait Jumping Jack Flash et les Rolling Stones et il imaginait, en fait, il voyait une baston dans un de racailles de son quartier d'Italie à se battre à coups de queue de billard et ça qui se passe sur le jukebox. Et il n'avait pas commencé à filmer encore. Hein. Et en fait, tout d'un coup, il s'est souvenu de cette vision qu'il avait eue en écoutant en boucle Jumping Jack Flash. Et en fait, il a bâti tout le film autour de cette scène uniquement. Et je pense que moi, c'est ça pour moi.
C'est quel film ? Tu te souviens quel film c'est ?
Mean Streets.
D'accord.
Mean Streets. Et en fait, pour moi, ce serait ça le clip de clip vidéo idéal, le clip musical idéal. Mais ça passe où on parle, parce qu'en effet, c'est pas du tout ce qui passe à Fame. Mais voilà, ce serait ça, c'est la scène, c'est comme une scène, ce serait une scène d'un film, enfin une scène de bravoure en fait.
Ouais, je vois une sorte d'image en fait, une image animée tendue comme.
Bah, quelqu'un comme Lynch, il trouve d'abord une scène et Scorsese aussi, enfin il voit une scène et tout le flip se développe autour.
Mais pourtant, toi, quand t'écris les chansons, parfois c'est plusieurs scènes, c'est presque des histoires.
Ah, moi, je crois rien à ce que je raconte.
Mais il y a des images ou.
Ouais, non, mais oui, mais en fait, ouais, il y a plein d'images, ouais. il y a que ça, même, je dirais.
Mais c'est plutôt. C'est peut être narratif, quand même, des fois. Il y a un personnage.
En fait, moi, je sais de quoi je parle. Mais bon, cela dit, après, comme je sais de quoi je parle et j'ai pas envie de.
Et jamais tu nous en parles, autrement que par les mots de tes chansons. Non,
après, je pousse le curseur, je monte le curseur dans un truc mystérieux jusqu'à ce que ce soit limite de ma compréhension. Si je pousse trop loin, ça devient du bullshit. Et si je reste avant, ça devient trop lisible. J'ai envie que les gens s'approprient le matériel. Le matériel, c'est vraiment le matériau, en fait. C'est vraiment sur la ligne de rasoir.
De complexifier les choses quand tu
trouves que... Je complexifie tout le temps. D'accord. Dès que je comprends trop moi-même, ça m'énerve parce que j'ai pas asséné comme ça les choses. Et je préfère que les gens aient un sens un peu... Mais par contre, il faut que moi, ça reste dans mon... Et ça parle d'un thème de départ. J'ai toujours un thème, quand même. C'est pas du bullshit. J'écris pas n'importe quoi, comme ça.
Alors, Johanna, qui est en studio, va nous envoyer bientôt Cartagena. Et Benoît, un dernier mot sur Fame, sur ce que tu veux, avant de te quitter. Non ?
J'attends une question.
Ah, une question, tu as une question. Alors,
au cours de les gilets jaunes.
Nicolas, t'as pas une question pour Benoît ?
Non.
Ah bah ouais, je crois que tu l'as. Vas-y.
Je ne sais pas. Je n'ai même pas de questions pour moi.
Est-ce que tu pourras nous inviter le 15 au soir ? Parce qu'on a vraiment très envie de venir.
C'est une séance qui marche déjà très bien, mais avec plaisir, oui. Avec grand plaisir.
Et puis donc, peut-être revenir sur le fait qu'il y a aussi des rendez-vous de...
Ah si, j'ai une question. C'est pas ennuyeux parfois de travailler la plupart du temps avec l'institutionnel, en fait.
C'est une bonne question en même temps.
Ouais, pour obtenir la subvention et tout, c'est de la paperasse quand même. C'est pas dur un peu, des fois, parfois.
La Gaîté Lyrique, ça passe crème. C'est-à-dire que vous êtes un peu un festival récurrent, assuré chez eux, une vraie partie de la programmation. Et qu'est-ce que tu penses de ce travail avec la Gaîté Lyrique et de ce lieu ?
Qu'il est voué à se poursuivre.
C'est le principal.
Bon. Alors, je crois qu'il a bien répondu.
Moi je trouve ça assez épatant justement comme programmation pour une institution quoi. Enfin c'est pas...
Mais c'est ambigu, la Gaîté Lyrique elle a une histoire aussi un peu particulière. Je sais pas ce que tu pourrais dire.
C'est assez audacieux quoi, c'est cool je trouve.
Il y a pas mal de projets où on retrouve des personnes qui émergent et qui sont sur scène à la Gaîté. Ouais. Je pense aussi à Afroféminisme. Toi, tu suis un peu les autres programmations ?
Oui, j'y vais comme public, oui.
Et tu le situes par rapport à quels autres lieux comme ça proposent des programmations où tu te sens un peu
Bah nous, ce qui nous intéresse à la Gaîté Lyrique, c'est un lieu très, très, très ouvert. C'est comme une sorte de boîte à outils. On peut transformer la salle de concert en salle de cinéma avec le son de la salle de concert. On peut utiliser l'espace qu'on appelle l'entrefoyer pour programmer des performances et des projections performées, dont celle de Regina. Y a un plateau bar qui est assez utile aussi pour faire des conférences aussi. Donc c'est un lieu qu'on peut, pendant 5 jours comme ça, envisager comme un bel écrin pour toutes ces programmations.
Très bien. Alors, merci. À bientôt à la Gaîté Lyrique. Et là, on part à Carthage pour retrouver Nicolas Kerr. What will they say when the nights turn to grey? We will keep on fighting till the end. Who should we trust when all love turns to rust? We shall keep on dreaming till the end. Des retours sur Funtug avec la grande chance d'avoir que Nicolas en studio. Alors, Cartagena, on ne s'est pas trompé, hein, c'est bien ce qu'on vient d'écouter.
Ouais, tout à fait.
Toi, tu es déjà allé à Carthage ?
Carthage, moi je parle de Carthage en Phénicie antique. C'est situé au Liban, je crois, actuellement. Mais non.
Ah bon, ce serait pas Carthage, le Carthage, Carthage en Tunisie?
Non, il y a... Ah oui, c'est... Y a, ouais, c'est en Tunisie. Si, si, excuse-moi, je me suis planté. C'est en Tunisie. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Carthage, mais je crois qu'elle est en Amérique du Sud, en fait. Il faut se méfier. Je crois qu'elle est en Bolivie. Je comprends rien, maintenant. J'ai tout lié à ce mélange.
Non, mais c'est vrai que Carthage, maintenant, c'est des
ruines. C'est des commerces de la pourpre. C'était tenu par les Phéniciens, qui sont les Libanais. Donc après, c'est peut-être que c'était délocalisé, que c'était en Tunisie. C'était un comptoir qui était dans l'actuelle Tunisie. Oui. C'est un comptoir phénicien.
Et c'est cette période ?
C'était les deux grandes villes, en fait. Les deux grands ports, disons, commerciaux, c'était Marseille, Massilia à l'époque, et Carthagène.
Et Carthagène, tu l'imaginais avec quelle histoire, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là-bas, dans cet univers ?
Je ne sais pas pourquoi. Si, il y a un truc très précis, en fait. Et pour moi, mais là, Carthagène, pour moi, ça représente le règne matériel. Voilà. Celui dans lequel on évolue. Ça représente la matière, en fait. Le règne matériel. Voilà. Je ne sais pas pourquoi.
Le début. Ne
serait-ce que par ces échanges de marchandises, le commerce contre quoi ? J'ai rien, parce que le commerce, pour moi, c'est autant un vecteur de civilisation que l'art, en fait. D'échanges entre civilisations que l'art. Pareil. Quand on s'échange des marchandises, on a intérêt à être amis, on peut se compte, en fait.
Et là, et du coup, comment on retrouve cette ambiance dans l'histoire que tu racontes, enfin, c'est quand
non,
même
un champ d'amour. Ça parle de quelque chose d'autre, parce que c'est mélanger un truc, c'est une histoire que... Non, c'est pas un truc d'amour. Il y a un truc... C'est compliqué, en fait. Il y a un truc métaphysique, c'est... Que dirons-nous quand nos nuits tourneront au gris et nous continuerons dans nos bats jusqu'à la fin? C'est un truc bizarre. Mais après, il y a Werita, c'est un surnom que c'est Ariel qui a vécu son enfance au Mexique, on l'appelait Werita. Et en parlant en espagnol, et le truc, c'est qu'elle disait, mais je comprends tout. Ce que vous dites, parce que je parle espagnol. Ils étaient hallucinés parce que c'est une petite blonde. Et Werita, c'est un peu la blondasse.
Ah oui ?
Ouais. Et en fait, elle se baladait tout le temps dans le pueblo. Elle faisait le mur et tout. Et en fait, tout le monde l'appelait Werita, Werita. C'était en mignon, mais en même temps, c'était aussi rabaissant. C'est gringa.
Ouais, j'imagine que si elle fait le mur, elle ne croise pas forcément des ombres les plus.
Non, mais elle adorait le pueblo. Elle voulait gagner des poussins à la loterie.
Et alors, cette rencontre. Ça, tu l'aurais prévu ?
Il y avait des signes, on s'est croisés plusieurs fois sans se voir. Donc, au travers d'œuvres, j'avais 16 ans, j'adorais un de ses films, Les Pyramides Bleues. Puis...
C'était lequel ?
Les Pyramides Bleues, je n'ai pas revu depuis en fait.
Mais c'est étonnant parce que moi, je n'ai pas réussi à trouver d'extrait pour l'instant. Mais le nom, quand même, fait un petit peu, en tout cas, de manière surréaliste, penser à votre aventure avec Alan Crystal Palace.
Bah, Alan Crystal Palace, j'ai trouvé par hasard le titre. Moi, j'aime bien traîner sur Internet, en fait. On est partout, toutes les conneries. Tout. J'ai été tombé sur un site parodique qui avait un random video game name generator. Donc, c'était un générateur.
Ah, tu l'as vraiment tapé en ligne, alors ?
Pardon ?
Tu tapes un mot-clé pour que ça fonctionne ?
Non, c'est un site satirique un peu, je sais plus où j'ai trouvé ça. Et en fait, ils pointaient sur un autre site où il y avait un gars qui avait installé ça. C'était un générateur aléatoire de jeux de noms de jeux de vidéo, comme il y en a pour les noms de groupe. Et donc, on appuie sur une touche, plic, et ça sort. Le premier qui est sorti, c'est Lolita Schoolgirls with Chainsaws, donc les petites écolières Lolita avec des tronçonneuses. Après, c'était... Kung Fu Jet Fighter, c'est voilà, c'est Jet Pilot, ouais. C'est Kung Fu Jet Pilot, c'est le gars qui conduit les avions, le conducteur, hein. Enfin, mais non, les mecs genre Top Gun, quoi, et en même temps c'est Kung Fu.
Bon, du coup, ça vous parlait pas, ça.
Et le troisième, j'ai appuyé, il y a marqué Alien Crystal Palace. Non, j'étais là pour m'amuser de ces idioties. D'un coup, il y a le troisième, c'est marqué Alien Crystal Palace.
En même temps, c'est très poétique.
Oui, mais là, je dis, bah, c'est le site du film. Mais on n'avait pas de titre à l'époque. Mais non, mais moi, j'étais à ce site juste pour rigoler de ces idioties de Kung Fu Jet Pilot.
En même temps, est-ce que ça a peut-être pu s'appeler comme ça aussi, non ? Ça aurait pas été très différent, non ?
Ouais, mais en fait, j'avais fait aussi tout dans Laïus, à la fin, qui explique pour ça, il appelle Lénine Crystal Palace et qui.
Eh oui, ça a été coupé, ça ? On n'a pas
non,
la résolution de
finalement, on l'a pas mis.
Et alors, pourquoi vous l'avez pas mis ?
Ah, c'est dommage. Bon, ça compliquait encore plus les choses.
Ah oui, ça rajoutait du mystère au mystère, le mystère.
Ah non, mais moi, c'est vraiment. Oui, j'adore les millefeuilles. Enfin, pas les gâteaux, ils sont trop sucrés.
Mais du coup, vous comptiez vraiment raconter quelque chose de précis ? Parce qu'on a l'impression que dans ce film, est-ce que c'est un film d'ailleurs, un film ? On dit que c'est un film pour le cinéma ?
Ah oui, carrément, c'est un long métrage de cinéma, une fiction. C'est parce qu'il y a des gens qui disent, oui, on dirait qu'un film d'art, projeté dans les galeries. Je dis, non, c'est un film à l'ancienne. Qui a des côtés, en fait, les gens disent nanar, c'est pas vrai, c'est pas nanar du tout. Et c'est un film avec des esthétiques, une esthétique qui est aussi parfois récupérée de films, de séries qu'on peut nommer Z, des trucs fauchés.
Enfin, en tout cas, des formes qui aujourd'hui ne passent pas au cinéma. Et,
ouais.
Et là, c'est, vous attendez à détourner quand même un peu l'attente du public en sortant cette forme-là aussi.
Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est parti d'une histoire qu'on a écrite. Surtout un ami à moi qui est urgentiste, d'ailleurs, c'est son métier, hein, il est médecin urgentiste. Et en fait, on a écrit la première mouture, Ariel n'arrivait pas du tout à la vendre, donc elle a rajouté.
Parce que c'était quoi la première mouture ? Il manquait pas.
Il n'y avait pas la secte, il n'y avait rien. Bon, c'est compliqué, on va sortir un livre. Et en fait, Ariel avait un truc, et nos deux histoires se battaient, en fait.
Et toi, tu rajoutais quoi comme ingrédient ?
Non, surtout, c'est qu'Ariel a rajouté une histoire d'amour, qui n'était pas dans la première.
Ah, mais dans la première version, qu'est-ce qu'il y avait ? S'il n'y avait pas d'histoire d'amour, pas de sexe ?
Bah, en fait, c'était les trois parcs, c'était les producteurs, par exemple. Et Hambourg, il disait, c'est le nom du port. En fait, dans un coup de fil de Hambourg, c'était la ville.
Oui, d'accord.
C'est pas un homme, en fait.
Oui, c'est ce que je me suis demandé, mais bon,
et
après...
En fait, on se rendait compte qu'Hambourg, c'était détective, à la fin. Enfin, il y a des grands indices.
Ah oui, mais alors, j'ai pas compris.
Non, mais ça, c'est disparu, tout ça.
Ah oui, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait au début ?
Au début, c'était plus compliqué. C'était aussi l'histoire avec l'eau et l'alcool et la torture, en fait.
Et on s'imaginait quand même quelque chose.
Il y avait beaucoup plus de spectres aussi, beaucoup plus de fantômes.
Et est-ce qu'il y a eu l'envie d'avoir des effets spéciaux autres ?
Non, bah, moi j'en ai fait plein aussi qui ont été malheureusement pas filmés. Enfin, j'ai designé les monstres.
Designé.
Non, on les a fait, hein, vraiment, on s'est pris la tête. Le pauvre figurant qui avait les yeux crevés, comme ça.
Ah oui, vous avez gardé ça ?
Avec des carcasses de veau et tout.
Ah non, c'était éphémère.
Ouais, mais si, on l'a fait, mais
et
en fait, on
la
voit.
Scène de
faut vraiment, même en appuyant, ça va tellement vite. Et c'est parce qu'à Ariel, il y avait des problèmes syndicaux et l'équipe voulait arrêter à telle heure. Et ben, c'est comme ça.
En tout cas, moi, j'ai l'impression que je répondrais volontiers aux détracteurs qui se poussent à l'entrée. Qui se pousse à l'entrée de la critique, j'ai l'impression, à venir de ce film, que finalement, oui, c'est peut-être insuffisant de dire qu'on est un peu dans l'esprit du giallo. De toute façon, il y a un choc d'attente. Je pense que ce film ne correspond pas à ce qu'il y a en salle. Et puis, toi, tu
sais. Je pense qu'il est beau. Enfin, c'est qu'il n'est pas. Il est bien débile aussi.
Il est un peu moche aussi, on pourrait dire. Tu vois, quand nous qui sommes habitués maintenant, enfin, je parle vraiment pas en mon nom, mais aux effets spéciaux extrêmement 3D, léchés.
Ouais, mais il n'y a pas d'effets spéciaux là.
Mais on pourrait presque faire la traçabilité des achats d'accessoires en grande surface.
Non, je n'en ai pas.
Des décors égyptiens.
Ah, il est d'accord avec Sipien, mais ils sont tous en carton, il le dit dans le film.
Oui, c'est drôle.
Elle fait, on dirait du carton, mais c'est du carton. Donc, oui.
On va écouter un extrait pour se rebaigner un petit peu dedans.
Elle est fantastique, la princesse, elle est très bien. Oui, je trouve que le casting, on l'a bien choisi. Hein. Ouais. Parce que tu vois, il faut en même temps avoir ce côté très actrice à mes 50, savoir jouer de côté mélodrame.
Ouais.
Et en même temps, je sais pas, elle a un truc moderne. Elle est crédible, je trouve. Ouais. Et lui, il est parfait aussi.
Si.
Ti piace.
Mi piace.
Molto.
Molto.
Oui,
j'ai
enfin,
sur la plage.
Oui. Non, c'est bien. Ça fait un peu carton en dessous.
C'est du carton.
Bah oui, ça, c'est du carton. Mais sinon,
tout est en carton.
Oui, mais tu sais, avec une bonne lumière, ça passera.
Oui. Faites voir que vous avez un très beau profil.
Ah oui, il est incroyable.
Non, il est très bien.
Ça fonctionne bien.
Non, mais c'est en plus, c'est ton arrière-grand-père.
Oui, ah, oui, c'est vrai. C'est la même dynastie, quoi.
Non, mais moi, je veux pas d'une petite histoire. C'est toujours, c'est jamais spontané, c'est toujours compliqué, c'est... Je veux pas d'une petite histoire, c'est de l'amour. L'amour avec un homme marié en plus.
Moi je n'aime que toi.
C'est faux.
Coupé.
De retour sur Funtalk, donc un petit extrait d'un film qui parle de la fabrication d'un film et des mystères autour de cette fabrication dans des décors assez beaux comme celui de Venise où tu es parti donc avec Ariel Nicolas.
Ouais.
Et donc ce film que tu réalises avec Ariel Dombal, mais avec la contribution de plein de personnages atypiques qui viennent ou pas du cinéma comme Jean-Pierre Léo, et aussi d'amis, comme tu parlais de ton ami urgentiste, qui donnait des conseils sur la crédibilité des crimes.
Ah non, pas du tout. On a écrit ensemble, parce que lui, il a fait tout le gros boulot de... Il écrit très, très, très vite, il écrit autant sur le rock que sur les randonnées en banlieue, que sur n'importe
quoi. C'est assez génial. Et c'est comme, attends, excuse-moi, ça me fait penser au personnage aussi, pardon, mais attends, parce que moi je le découvre.
En gros, le script a été rédigé, le premier script par Florian et moi, en fait. On l'a écrit ensemble, mais
Issu de vos discussions ou lui il apportait aussi?
Non, d'abord on a discuté des soirées entières avec Ariel. Enfin, moi, je la connaissais, mais en fait, Florian ne la connaissait pas. Donc, on a parlé des soirées entières dans les restaurants chinois. On prenait des notes sur les nanas en papier pour imaginer ce qu'on pouvait faire. Mais à la base, on voulait vraiment faire un Dario Argento, en fait. Et après, ça a shifté, quoi, non.
Et c'était assez inédit pour toi de rencontrer Asia Argento ou elle faisait déjà partie de...
Non, je ne connaissais pas.
Du coup, tu n'as pas eu le temps de l'épouser, que vous êtes déjà séparés dans l'histoire. Mais t'étais fan des Dario Argento aussi un peu comme...
Ah mais moi je suis ultra fan de Dario Argento, de Lucio Fulci, je suis autant fan de Dario Argento que d'Orson Welles ou que Hitchcock, quoi. Enfin vraiment, c'est pour moi. Je fais pas de distinction, hein. Je ne nomenclature pas les choses, hein. Je m'en fiche en fait.
Oui, il y en a un que j'adore et peut-être que ça va te parler, mais j'ai oublié le titre, tu sais, c'est cet effet de vertige quand on voit une œuvre d'art.
C'est un homme de Stendhal.
C'est ça, hein.
Le syndrome de Stendhal. Putain, ouais. J'articule vraiment comme un âne.
Mais toi, t'es pas sujet à ça. Mais tu vois.
Si, exactement. Je l'ai eu une fois.
C'était quand?
C'était quand on a joué avec Pony Hawks à la Villa Médicis.
Et c'était la villa qui t'a fait cet effet?
Ouais. Il y a un moment où j'ai cru être... tant de beauté, c'était le palais des Médicis quand même. Et à un moment, j'ai cru voir une déchirure dans l'espace-temps et je sentais que le temps était une illusion et qu'en fait, c'est pas une droite en fait, et que on pouvait circuler dedans et tout. Et je me suis accroché à un pilier, j'en bougeais pas, quoi. Et puis, il s'est passé.
Ah, mais donc, comme à l'époque, tu veux dire, de la construction de la villa? Comme si t'étais...
Ouais, comme si j'étais là, et après ça peut aller plus loin, ça allait aux collines, enfin je sais pas, j'ai eu un truc vraiment bizarre en fait.
Et pendant le concert?
Non, dans l'après-midi. Parce que d'un coup j'étais dans la chambre de Laurent de Médicis, et voilà, et en fait j'y dormais en fait.
C'est bizarre, fort.
Ouais.
Et alors je compatis. Moi j'aime bien ce film aussi parce que j'ai compris que ça avait un nom, ce genre de sensation.
Les films psychologiques.
Ouais. Je pense à un autre personnage du film. Là, tu disais que ton ami urgentiste écrivait sur le rock, mais il y a aussi Théo.
Acola.
Ouais, alors déjà il est sensationnel, tu vois, il y a quand même des personnages. En fait, j'ai l'impression que ce film, C'est comme une bande dessinée, c'est-à-dire avec le potentiel d'en faire des tonnes de dérivés d'albums, avec des personnages à déployer. Ouais. Un peu comme si c'était une base. Et je me suis dit, bon, tu vas me dire ce que t'en penses. Bon, en tout cas, lui, Théo Akola, c'est quelqu'un que j'aurais voulu voir plus dans son rôle. Mais toi, tu le connais aussi dans la vie. Oui.
Maintenant, en fait, j'ai rencontré juste avant, pendant qu'on faisait le casting, en fait. Et j'ai rencontré par hasard, c'est Ronald Burger, mec de Catanoma, et bon, maintenant il est tout seul. Et en fait, Rodolphe, il faisait une... comment ça s'appelle ? Il avait un hommage à la Philharmonie, maintenant qu'il y a la Villette. Sur le Villette en round, il m'a invité. Il a invité aussi Théo.
Génial.
Et voilà, et c'est là que j'ai rencontré Théo. Et je trouvais qu'on aurait dit un lord anglais. Et on cherchait le personnage des détectives. Et j'ai dit tout de suite, tiens, j'ai rencontré un type le jour. Mais je savais qu'il faisait partie de Fashion Vonneur. Orchestre rouge et ça.
D'accord. Et qu'il était critique aussi. Enfin, tu t'intéressais à ce qu'il faisait. Enfin, tu connais.
Bah oui, je connaissais pas Jude Fodor, mais à l'époque où ça sortait en fait. Donc après, c'est le jour où il m'a dit, je m'appelle Théo, Théo Akola. J'ai halluciné. J'ai dit, mais j'écoutais un petit disque quand j'étais dans les années 80 en fait.
Mais lui, vous connaissez aussi pour Pognoc, s'il a jamais écrit sur.
Non.
D'accord. C'est étonnant parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes comme ça, il n'y a pas eu de rencontre alors.
Non, mais après, on est devenus très amis, Théo et moi, parce qu'on s'est connus sur le tournage. Quoi.
Bon, alors on télescope un peu les extraits, parce qu'il y a aussi Empire qui va sortir.
Empire.
On a l'impression que c'est un nouvel épisode.
Ouais. Non, c'est un autre. Ça n'a rien à voir en fait.
Un autre quoi ?
Ça n'a rien à voir en fait.
Ça n'a rien à voir.
La seule clé de l'album, c'est ce que je mets derrière sur le verso du disque. L'Empire n'a pas de fin. Voilà. The Empire has no end.
Tu veux dire, ça fait penser à un...
Philippe Kadic.
Mm-hmm. Et c'est quoi l'Empire pour lui? Alors, c'est pas un territoire. Enfin, c'est pas un territoire physique. Bon, on écoute et puis tu nous donneras des pistes ou tu vas nous perdre, comme tu veux.
Thank you.
Voyager, donc qui s'intéresse à l'album l'achète, c'est ça la moralité, et puis nous on parle d'autre chose maintenant.
Oui.
Bon, en même temps, c'est l'occasion pour moi, puisque tu m'autorises à ouvrir la parole, de te dire que je suis très contente que tu sois venue.
Ah bon.
Et en fait, j'aurais même pu t'offrir une heure et demie, mais j'étais pas sûre que tu veuilles venir en fait.
Ah bon, pourquoi?
Bah, je sais pas, je fais la timidité
De
ma part d'imaginer ça.
Ah bon.
Et d'ailleurs, attends, je peux te lancer une autre perche aussi. Alors, selon la légende médiatique, Ariel Dombal t'aurait rencontré en te disant « Écris-moi un album ».
C'est complètement faux.
Alors, je voulais dire, est-ce que tu voudrais bien me donner quelques textes pour chanter?
Qu'est-ce que tu veux que je te donne?
Bah, je sais pas, des trucs qui traînent, tu sais pas quoi faire, des choses que tu pourrais me donner à chanter.
Je sais pas, parce que je veux que j'en écrive plein.
Il faut?
Ah oui, parce que j'ai 3 albums à faire, donc.
Mais dire c'est... Tu vas pas avoir de vacances, du coup?
Non, c'est clair. Les cliniques, j'y passe en... Les vacances, j'y passe en clinique de repos, mais c'est vraiment plus.
Et là, pendant le tournage, t'as un peu voyagé? Tu continues de voyager hors...
Je voyage surtout... moi, je suis né à l'étranger. Il n'y a qu'à 16 ans que je me suis installé définitivement en France, en fait. Même si mon père est français, j'ai toujours une nationalité française. Il n'y a qu'à 16 ans, je me suis installé en France, mais je voyageais donc... À 11 ans, j'ai fait le tour de tous les continents, déjà. Et en fait, en tournant avec Pony, j'ai refait de nouveau le tour des continents. On a joué partout, en fait.
Donc, et pour ceux qui rêvent de faire le tour du monde, ça va? Toi, tu l'as un peu, t'as un peu écumé, alors.
Bah moi, à 11 ans, en plus, j'en ai rien tiré. Je voulais qu'on me laisse tranquille avec mon Commodore 64 chez moi, quoi, pendant mes vacances. Ça me saoulait, aller au Soudan, au Yémen. Mais en même temps, c'est sûr que ça a nourri mon imaginaire, en fait.
Mais toi, c'est vrai que la dernière fois que je t'ai croisé, je sais plus, après ça m'est revenu, je crois que tu disais que tu allais définitivement écrire que des chansons de pirates, et je me suis dit, mais de toute façon, tes chansons...
Non, pas les chansons, des nouvelles.
Ah, des nouvelles, mais oui, parce que t'es, par contre, c'est déjà des chansons de pirates.
Oui, je sais pas... Ben, les pirates, c'est quand même des bâtards. Hein. C'est des mecs qui...
Ah oui, t'as raison. C'est plutôt la version romantique. Alors, c'est plutôt la version romantique du pirate, la plume au chapeau, qui regarde l'horizon. Et...
Non, c'est des trucs de pirates. Mais les pirates sont méchants, quoi. Ce sont des nouvelles des pirates, mais les pirates, c'est des ordures, quand même. c'est quand même des mecs sans vergogne, quoi. Ils accostent un bateau, ils tuent tout le monde, ils se parlent avec tout le pognon qu'il y a dedans. Enfin, c'est violent.
Un côté assez individualiste.
C'est Gengis Khan, c'est brigand de grand chemin, quoi. Enfin, c'est comme Staline qui était à la base, il était à la tête d'une bande de pilleurs. Il fondait comme ça en cheval avec sa bande sur des villages, il violait toutes les femmes, il tuait tout le monde et il se barrait avec tout ce qu'il y avait dans les maisons, quoi. Enfin, c'est. Et pirates, c'est ça aussi. Hein. Moi, je n'arrive pas à les romantiser comme Byron, parce que c'est quand même avant tout, c'est des assassins et c'est des voleurs. C'est des gens qui débarquent dans un quartier. On imagine ça, qu'il y a une dans un quartier qui tue tout le monde.
Ça t'inspire pour écrire ces histoires ?
Justement, oui, mais je redonnerai aux pirates la réalité de ces actes. En fait, ce serait des histoires de pirates, mais les pirates, ils sont trash, quoi.
D'accord. Ouais. Et la vie d'un. Ouais. Tu parles. Je me souviens dans White Noise. Ouais, pas White Noise, mais White Noise.
Ouais, enfin, White Noise aussi.
J'aime bien parce qu'on t'entend parler et tu parles un peu tout seul, mais tu parles aussi pour la caméra. Mais tu dis que.
Je parle pas tout seul, il faut un témoin.
Ouais, tu parles pour la caméra, mais en fait.
Je pense tout seul, par contre, c'est clair.
Tu disais quoi que la vie d'un rocker ça passe vite, il y a rien pour se raccrocher.
Il y a plus tellement de rockers maintenant. Il y a des gens qui font du rock mais c'est pas des rockers.
Et toi alors comment tu définis ce que tu fais, enfin ta vie, c'est plus vraiment, tu le dirais plus de la même façon aujourd'hui?
Alors c'est le chaos, hein, magie.
Mais justement les albums, les invitations à la radio, ça remet quelques jours dans la semaine ou pas?
Oui, mais c'est bien, ça me permet de structurer un peu, en fait. Tant mieux. J'aime bien avoir des choses à faire. Ça me permet de structurer mon chaos. Sinon, c'est le chaos et je ne sors pas de mon pieu.
Mais la liberté dans ce chaos-là, c'est aussi de se dire que tu peux tout réinventer, que tout est vierge en permanence, non ?
Tout est vierge en permanence pour tout le monde. Hein. En fait, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Permanent Apocalypse, donc Apocalypse Permanente. À chaque instant, c'est la fin des temps et le début d'un. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est la fin des temps, tout le temps. Même pour n'importe qui, en fait. Ce soir, tu ne seras pas la même personne que tu es maintenant.
Est-ce qu'on clôt là-dessus ?
Parce que tu auras vu d'autres trucs, tu auras parlé avec d'autres personnes.
Oui, et la personne qu'on est, on peut l'effacer, tu penses ? Le passé, on peut le... C'est marrant, tu parlais de la compression du temps.
Le temps peut se remonter vers l'arrière, en fait. On peut aller en arrière aussi. Mais nous, on est situé dans le présent, mais c'est parce que le cerveau est bloqué. On n'utilise que 10% du bloqué du cerveau. Mais je pense qu'on vit dans tous les temps à la fois. En fait. C'est l'empire qui nous maintient dans une prison de fer.
Ah oui, l'empire, t'as dit que tu me donnes un indice.
Ouais. C'est l'empire qui nous maintient dans une prison de fer. On ne voit pas les tournures, en fait. Le temps se parcourt comme un territoire.
Le temps se parcourt comme un territoire. Mais alors, il n'y a pas de prison, la prison de fer.
Bah si, parce que là, on le voit rectiligne, on le voit linéaire, le temps.
Ah oui, tu veux dire si on sort pas de l'Empire.
Ouais.
Bon, en tout cas, les pirates, ils voyagent sur les mers... comment on appelle ça ? Les mers qui ne sont à aucun empire. Je sais plus, c'est un joli mot.
Oh non, ils attaquent tout le monde. Ils sont
extraterritorial, les eaux extraterritoriales.
Non, les aussi dans les eaux territoriales. Hein. Les vampires, les pirates s'en foutent quand même. Hein.
Les vampires aussi.
Pareil. Il n'y a pas de trésor.
Bon, alors on se quitte dans le présent et puis on se retrouve dans le passé et dans le futur.
Très bien.
Merci beaucoup.
Merci. Motherfucker, little man, bitch. Mr. Whoa, I see you. I see you.